Europe 1. Ondelat raconte. Christophe Ondelat.
Voici une histoire à la fois très douloureuse et très belle par l'amour qui s'en dégage. L'histoire de Léonard qui est frappé en 2010 par la maladie de Charcot, qu'on appelle aussi la SLA, la sclérose latérale amyotrophique. Sa femme et ses quatre enfants l'ont accompagné pendant 3 ans et demi jusqu'à sa mort. Et c'est sa femme, Axelle Hubert, qui raconte ses années bouleversantes dans un livre « Si je ne peux plus marcher, je courrai » aux éditions MAM. Elle sera là tout à l'heure. La réalisation est signée Céline Lebras.
Europe 1, Christophe Ondelat.
Mon Léo, il est tard et je suis seul dans notre lit. Et j'ai froid. Tu ne rentreras pas ce soir. Tu ne rentreras pas non plus demain, ni après-demain, ni jamais. Lorsque je veillais ton agonie, je me disais, profites-en, un jour tu donneras cher pour être là, à le contempler. Ce jour est arrivé. Ce soir, nos quatre enfants ont embrassé leur photo de toi. Ils t'ont souhaité bonsoir. Je leur ai promis que nous continuerions à être heureux. Je suis heureuse et fière d'avoir été ta femme et la mère de tes enfants. Alors, on continue. Les premiers signes de la maladie de Léo apparaissent un samedi d'octobre 2009. C'est bizarre. J'ai eu du mal à descendre l'escalier. Léo dit aussi qu'il a des sortes de crampes et des fourmillements dans les bras. Mais ni lui, ni Axelle, sa femme, n'y prêtent vraiment attention. Ils ont 4 enfants, 3 filles dont l'aîné vient de fêter ses 5 ans, un petit dernier qui n'a que 10 mois. Ils n'ont pas le temps d'être malades. Le lendemain pourtant, Léo a une angine. Il va chez le médecin généraliste et au passage, comme ça, il lui parle de ses fourmillements.
Des fourmillements, vous dites ? Oh, attention, hein, c'est sérieux ça. Je pense que vous devriez sans tarder aller voir un angiologue, et peut-être même un neurologue.
On est en octobre, et vous savez ce que c'est que les spécialistes, hein, on lui donne un rendez-vous pour janvier. Quelques jours avant Noël 2009, Axelle et Léo vont, comme chaque année, à la soirée annuelle de l'entreprise où travaille Léo. Ça fait 2 heures qu'ils y sont. Léo se met à bafouiller. On comprend rien à ce qu'il raconte.
Léo, t'as trop bu, non ?
Ça lui arrive. Sauf que d'habitude, il tient très bien l'alcool.
Tu veux qu'on rentre, Léo ? Ouais, d'accord.
Axelle fait un pas ou deux, elle se retourne. Il l'a pas suivi.
Ben viens. C'est ma jambe, Axelle. Elle m'obéit pas. J'arrive pas à marcher.
Dehors, il neige. Il fait froid. Léo tente de faire un pas ou deux. Il tombe. Et en tombant, sa tête heurte le trottoir. Il saigne. Et il a un beau cocard. Axelle cherche un taxi de regard. Léo tombe à nouveau. Quand elle finit par trouver un taxi, le chauffeur ne veut pas les prendre.
Ben je vois bien qu'il est saoul, monsieur. C'est que je veux pas salir ma voiture.
Ce soir-là, ils finissent par appeler une ambulance. Le lendemain matin, ça va mieux. Il lui reste cette belle bosse sur le front, il boite un peu, mais ça va mieux. Et il va travailler. Arrive le rendez-vous avec l'angiologue, le médecin spécialiste des vaisseaux.
Je ne vois rien, hein. Rien d'anormal.
Et puis le rendez-vous chez la neurologue. IRM, scanner, analyse de sang.
Écoutez, tout est normal, hein ?
Alors, quand arrivent les vacances de février, ils vont au ski, dans les Alpes. Avec sa jambe, Léo a du mal. Mais comme les enfants sont petits, ils finissent par faire de la luge. À Pâques, la neurologue lui prescrit une ponction lombaire qui ne montre rien d'anormal et un électromyogramme qui mesure les courants électriques dans les muscles. Et là?
Bien. L'électromyogramme montre qu'il y a un problème, qui, je dois dire, dépasse un peu mes compétences. Je vais vous envoyer vers l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, c'est mieux.
Et hasard du calendrier, juste avant ce rendez-vous, toute la famille aménage dans sa nouvelle maison. Ou plutôt son ancienne maison qui vient d'être rénovée. Et il y a des marches et des escaliers partout. Ils ne le savent pas encore, mais ça ne va pas leur faciliter la vie. Et donc les voilà, Axel et Léo, main dans la main, le 1er juillet 2010, qui arrivent pour ce rendez-vous en neurologie à la Pitié-Salpêtrière. La neurologue qui les reçoit a déjà tout le dossier des examens effectués depuis 6 mois. Elle examine ses jambes, ses bras.
Levez-vous, allez-y. Levez la jambe gauche, bien. La jambe droite maintenant, bien.
Et pour la première fois, elle met des mots sur le mal qui frappe Léo.
Bon, je crains que vous ne soyez atteint par une forme atypique de ce que nous appelons une SLA. Une sclérose latérale amyotrophique. C'est une maladie dont vous avez sans doute entendu parler, sous le nom de maladie de Charcot.
La neurologue précise que c'est une SLA de forme spinale. Ça veut dire qu'elle ne touche que les bras et les jambes. Et pas de forme bulbaire, ce qui serait beaucoup plus grave, puisque là, ça toucherait les fonctions de respiration, de déglutition et de langage. Axel et Léo posent quelques questions.
Ça vient d'où? On ne sait pas vraiment. Probablement de plusieurs facteurs conjugués. Comment est-ce que ça peut évoluer? Difficile à dire. Il arrive que ça n'évolue pas, on ne sait pas vraiment pourquoi d'ailleurs.
Le genre d'espoir auquel on s'accroche. En tout cas, Axel se souvient bien que la neurologue n'a pas posé de pronostic vital. Ou alors peut-être qu'ils n'ont pas voulu l'entendre.
Alors je vais vous prescrire du riluzol, hein, tout en vous prévenant que ça n'aura probablement que des effets assez modestes. Hein. Et puis il va falloir vous ménager. Hein. Beaucoup, éviter la fatigue... Vous reposez un maximum.
Et après, il faut encaisser. En se disant, ça ne touche que les bras et les jambes, c'est toujours mieux que si ça touchait aussi la déglutition et la respiration. En se renseignant aussi quel est le pourcentage de malades dont les symptômes n'évoluent pas. Elle a dit que ça arrivait. C'est 10%, dont une célébrité, le physicien Stephen Hawking. Sa SLA n'a pas évolué. Et puis il y a cette question qui tourne dans leur tête. Pourquoi elle n'a pas dit s'il allait en mourir? Parce qu'on ne lui a pas demandé, peut-être. Axel et Léo s'accrochent à une phrase de l'un de leurs amis, un Anglais.
« Vous savez, dans la vie, j'ai beaucoup souffert de maux qui ne me sont jamais arrivés. »
Il a raison. Il faut vivre au présent et surtout ne pas aller sur Internet pour ne pas voir les choses en noir. Le présent. Définitivement, ils choisissent le présent. Et donc, 10 jours après le diagnostic, on pend la crémaillère dans la nouvelle maison. On fait la fête. Ils n'ont pas fait d'annonce. Ils le disent entre deux portes, au cas par cas. Et ils le disent aussi aux enfants.
C'est grave la maladie de papa? Oui, c'est grave. T'aimerais, toi, ne plus pouvoir courir, boiter en marchant? Non? Eh bien, pour papa, c'est pénible aussi. Mais tu sais, ça va pas l'empêcher de t'aimer. Hein. C'est le principal.
Ça leur va. À leur âge, ils n'anticipent pas. Ils vivent au présent. C'est 6 mois plus tard, un peu avant Noël, que Léo réalise. Il s'achète le livre « Le cerveau pour les nuls ». On y parle de la SLA, on dit que c'est grave. Et voilà ce qu'on écrit. Le décès survient après 3 ans en moyenne, même s'il existe des formes beaucoup plus lentes. Eh bien, ils auraient préféré ne pas savoir. Je ne vous l'ai pas dit. Léo joue du violoncelle. Très bien. Il aurait pu être professionnel. C'est la première chose à laquelle il renonce. Il ne peut plus jouer. C'est dur. Mais il ne le montre pas, et quand il commence à avoir du mal à nouer ses lacets, il dit
« Mais en fait, j'ai les jambes trop longues, hein. C'est ça le problème. »
Et quand il a du mal à monter l'escalier
« Mais que font ces marches dans cet escalier? Je vous le demande. »
À part ça, Léo continue de travailler. Mais il ne peut plus voyager comme il le faisait avant. À la rentrée 2011, un peu plus d'un an après le diagnostic, Léo a besoin d'une canne pour marcher. Et assez vite, son employeur lui paye le taxi. Mais quand Axel lui demande si à midi, il a demandé de l'aide pour aller déjeuner.
Ben, non, j'ai pas demandé. J'ai pas voulu déranger. Mais enfin, t'aurais pu tomber. Ben, il y aura bien quelqu'un pour me ramasser.
Et là, Axel explose.
Mais Léo, là, c'est moi que tu déranges. En fait, t'es pas le seul dans ta maladie. Ta maladie nous engage aussi, les enfants. Moi, je peux pas vivre dans la peur que tu tombes.
Axel et Léo font installer un ascenseur dans la maison. La famille et les copains font une cagnotte pour le financer. Et en avril 2012, Léo doit se résoudre à vivre en fauteuil électrique. Et lui, avec son humour...
Bah si je peux plus marcher, bah je courrai.
Pendant sa maladie, Léo verra 3 ou 4 fois le film Intouchable. Ce qui lui plaît, c'est cette capacité à rire de soi. Pas de bras, pas de chocolat. Si je peux plus marcher, eh ben je courrai. Au mois d'avril 2012, moins de 2 ans après le diagnostic, Léonard doit arrêter de travailler. Mais début 2013, Léo est rattrapé par la forme bulbaire de la maladie, celle qui touche la respiration et la déglutition. Dans le cadre d'un protocole, un essai, la recherche, on lui colle un respirateur diaphragmique. Par des fils sous la peau, on lui envoie des stimulations électriques dans le diaphragme, le muscle de la respiration. Sauf que c'est un protocole, c'est-à-dire que la moitié des patients ont un placebo, une machine qui n'est pas branchée. Et lui, bah, il sait pas. Mais il joue le jeu. Il s'agit de gagner du temps. Léo a aussi de plus en plus de mal à parler.
Maman, tu me racontes une histoire avant de dormir? Ben, demande à ton père. Non, je comprends rien quand c'est papa qui lit.
Sa voix est devenue chevrotante. Il parle plus lentement, il a du mal à articuler. Axel lui dit.
Mais comment on va faire si tu peux plus parler? Ben, si je peux plus parler, je chanterai.
En attendant, Léo fait de l'orthophonie.
Répétez. Dindon, dinaditon, du dos d'un dos du dindon.
L'orthophoniste essaye aussi de lui faire faire le bruit du baiser avec ses lèvres. Ça déclenche un fou rire général. Dans les difficultés, dans la souffrance de sa maladie assumée, Léonard chante, à sa manière, c'est-à-dire qu'il sourit et qu'il rit. Léo chante la vie, envers et contre tout. Il chante pour lui et pour nous. Il continue à vivre chaque seconde pleinement. Et il rit Il a toujours aimé rire. Depuis 6 mois, il faut le nourrir aussi, comme un enfant. Et parfois, ce sont les enfants qui le nourrissent, le monde à l'envers. Les enfants, tiens, parlons-en. C'est étonnant comme ils prennent tout ça. Un naturel incroyable, une lucidité déroutante. Et quand ils le nourrissent, ils se moquent de lui en rigolant.
« Oh, le bébé ! Le bébé !»
Heureusement maintenant, Axel a Fatou pour l'aider. Une auxiliaire à domicile, 1h30 par jour, et un peu plus quand la maladie va encore évoluer. D'après Axel, c'est Omar Sy, mais version femme. Une noire, grande, costaud, belle, d'une patience, d'une douceur. Elle le lave, elle l'habille, elle le nourrit. Moins de 3 ans après le diagnostic, au printemps 2013, non seulement Léo ne peut plus se nourrir, mais maintenant il a du mal à avaler. Et donc, on le nourrit à la paille, de compléments alimentaires hyperprotéinés. Le risque, c'est la fausse route. Quand ça arrive, c'est très impressionnant.
Les enfants, sortez!
Et là, il faut l'aider à comprimer son abdomen pour le faire tousser, pour le faire recracher. Et c'est Léonard qui écrit lui-même au neurologue pour demander qu'on lui pose une sonde gastrique. « Bonjour docteur. Je me permets d'insister pour avoir une date d'opération au plus tôt, car les repas sont cauchemardesques. M'alimenter est devenu une source de torture. Par ailleurs, l'excès de salivation, joint aux difficultés de déglutition, provoque des étouffements, particulièrement la nuit. Merci de votre diligence, bien cordialement. Léonard. » En attendant, Léo est devenu très maigre, 40 kilos pour 1m85. Sa maigreur suprême m'angoisse. Et puis ce nez qui coule et que je dois moucher, ça me rebute. Je regrette de ne pas le moucher avec assez d'amour. C'est si dur de voir celui qu'on aime diminuer de jour en jour. Tout mon être crie mon amour pour cet être malade. Et pourtant, quelquefois, j'ai peur de ne plus l'aimer. J'ai peur de ne plus l'aimer tant que je n'aime pas la maladie. Je lui dis que ça n'est pas contre lui, mais c'est contre la maladie que je m'énerve. Quand la Toussaint arrive, Axel lui dit
« Léo, tu veux qu'on parle de la mort ?»
Il ne veut pas. Il refuse. Axel lui demande aussi de laisser une lettre. Un petit mot pour les enfants, il le fera très peu. Il y a quelque chose que je ne vous ai pas encore dit. Léonard et Axel sont chrétiens, catholiques. À la maison, ils prient en famille. Tant qu'il a pu le faire, Léo s'est mis à genoux. Et maintenant, ce sont les enfants qui prennent son bras et qui lui font faire le signe de croix. Seigneur, la maladie, reprends-la, s'il te plaît. Je n'en veux pas. C'est devenu trop lourd, c'est trop gros, c'est trop inconfortable, c'est trop, simplement trop. Léo, autant qu'il le peut, le dimanche, malgré la maladie, assiste à la messe de sa paroisse.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, Seigneur, nos offrandes pour en faire le mystère de notre salut.
Depuis le début de la maladie, toute la famille demande régulièrement dans ses prières qu'il guérisse. Ils sont même allés à Lourdes. Léo y est allé 3 fois en tout, mais le miracle n'est pas venu. Léo a même écrit au pape. Très saint père, sachant trouver en votre sainteté une âme accueillante et bienveillante, et poussée par de graves circonstances, j'ose solliciter une audience privée pour mon épouse, nos 4 jeunes enfants et moi-même. Ma maladie est sans remède, et depuis 4 ans qu'elle dure, elle laisse ma famille désemparée. Une bénédiction de la part de votre sainteté serait comme une étape pour moi et comme une boussole pour ma famille qui me perd un peu plus chaque jour. Mais la maladie ira plus vite que le pape. Léonard se fait enfin poser une sonde gastrique en octobre 2013. Il quitte l'hôpital le 1er novembre, jour de la Toussaint. Deux jours plus tard, il commence à avoir du mal à respirer. Le 11 novembre, vers 22h, Axel appelle les pompiers. À cette heure-là, les enfants dorment. Ils ne voient pas leur père partir pour l'hôpital. Le 22 novembre, Axel croise l'une des pneumologues à l'hôpital. Elle ne soutient pas son regard. Elle a compris. Le soir même, la neurologue l'appelle. On est au bout. C'est une question de jours. Léonard me dit que le plus dur, c'est de nous laisser. Il n'a pas peur de la mort, de sa mort. Pas une seconde, il ne pense à lui. Il ne pense qu'à moi, qu'à nous. Il garde les yeux rivés sur la photo de nos enfants. L'immense douleur de Léonard est uniquement celle de nous laisser. Le samedi, les enfants viennent le voir. Deux semaines qu'ils ne l'ont pas vu. Ils ont préparé des dessins. Axel ne leur a pas dit qu'il va mourir. Ils sont trop jeunes. Elle leur a dit « Il va mal ». Ils accrochent leurs dessins au mur, ils grimpent sur le lit, ils tentent un câlin. Ils tournent un peu en rond, en vérité. Ils veulent aller jouer. Ils reviennent le lendemain, le dimanche. Et c'est la dernière fois. Léo accepte une sédation. Pas pour hâter la mort, mais pour soulager sa détresse respiratoire. Pour dormir. Il dort enfin. Avec son masque à oxygène sur le nez, son visage est encore tout rose, paisible. Si ce n'est cette respiration si lente. Je lui parle, je lui prends les mains, je l'embrasse. M'entend-il ? Mon Léonard est entré dans son agonie, sans faire de bruit. Son agonie dure deux jours et demi. Autour de lui, on chante, on prie. À chaque respiration, on croit que c'est la dernière. Dans l'après-midi du 27 novembre, on débranche son respirateur. Sa respiration se fait encore plus lente. Et une main dans celle de sa femme, et l'autre dans celle de sa mère. Léo expire. De la deuxième suite pour violoncelle seule de Jean-Sébastien Bach pour terminer votre récit. Axel, c'était donc il y a 5 ans tout ça.
Oui.
Votre aînée maintenant est adolescente.
Voilà.
Si j'ai bien calculé,
14 ans.
Voilà. Est-ce que vos enfants ont lu votre livre ?
Alors les trois aînés, les trois filles ont lu le livre et le petit dernier, Calixte, en est à la moitié.
Ah, il a commencé ?
Il a commencé, j'ai commencé avec lui. Et je préférais qu'il ne le lise pas tout seul parce que c'était beaucoup d'émotions, notamment le début, l'introduction avec cette lettre que vous avez lue
tout
à l'heure,
récit, ouais.
qu'il a laissé en larmes.
Ouais.
Du coup, quand j'ai vu ça, je lui dis, attends, on va c'est le lire ensemble. Ouais. On va le lire ensemble. Et donc, quand il me demande, on en lit quelques pages.
Vous avez fait le choix de les associer à tout ce processus, du début à la fin, sans jamais rien cacher, sans non plus vouloir leur faire peur.
Oui.
J'ai été surpris, notamment, vous les avez amenés au funérarium, tous les quatre.
Oui.
Des parents, d'autres parents auraient choisi de les écarter de ça.
Oui, alors pour moi, c'était très important qu'ils voient que c'était bien le corps de leur papa qu'on allait mettre dans ce cercueil, qu'on allait mettre en terre. Vous savez, les enfants ont un imaginaire qui est très fort, très développé. Et donc, je voulais qu'ils soient sûrs de la réalité de ce que je leur disais. Je voulais aussi qu'ils puissent dire au revoir au corps, à la dépouille de leur papa. Et ils ont apporté plein de dessins qu'on a pu mettre
Dans
le cercueil aussi. Mmh. Ouais.
C'est étonnant la manière dont vos enfants, manifestement, ont partagé tout ça, avec une forme de solidité.
Oui, effectivement, ils sont solides. Maintenant, je vous rassure, ils sont aussi bien des enfants et les larmes sont là. Et pour la petite anecdote, il y a quelques semaines, mon petit dernier, Calixte, qui regardait l'album photo de son papa, comme il aime bien à le faire de temps en temps, le soir, me regarde avec beaucoup de sérieux et beaucoup d'émotion. Il me dit « Mais maman, est-ce que papa, avant de mourir, a eu peur ?» Ensuite, il me regarde encore et il me dit « Maman, est-ce que papa avait d'aussi beaux yeux que les tiens ?» Et bon, derrière ce petit garçon qui a un grand amour pour sa maman, j'entends « Je ne me souviens pas des yeux de mon papa
ah ». Oui.
Et c'est ce qu'il me dit parfois.
Tout petit. Il était trop petit peut-être.
Il avait à peine 5 ans.
Qu'est-ce que vous avez répondu à la question « Est-ce qu'il a eu peur ?»
Je lui ai répondu, parce que je dis dans le livre, qu'il a eu peur de nous laisser. Il n'a pas eu peur
de la mort,
mais ça a été douloureux et en même temps, ces derniers jours que nous avons vécu, cette agonie a été extrêmement violente. C'était vraiment quelque chose d'une douleur très très crucifiante. Nous savions que nous allions devoir nous séparer. Je savais que j'allais devoir continuer à élever physiquement toute seule mes enfants et en même temps, eh bien, nous avons vécu ce temps-là dans une joie qui est très ineffable, presque indicible, quelque chose qui nous est tombé dessus de très doux et de très paisible. Donc,
qui est lié à votre foi ?
Ben, je ne suis pas si sûre, mais d'abord, la première réalité, c'est d'avoir été là, en fait. C'est d'avoir pu l'accompagner
jusqu'à la dernière seconde
et sans mise en scène, sans phare. Vraiment dans la vérité de la relation, de l'être, je lui tenais la main, je lui caressais la main.
Et sa mère tenait l'autre.
Et j'étais là, et sa mère tenait l'autre. Et c'est pas si facile de partager l'être que l'on aime. Moi, je suis mère moi-même, et j'imagine que c'était pas si facile. Et voilà, chacune d'un côté. Et voilà, nous avons vécu cette agonie un peu comme... je dirais la manière dont nous avons pu vivre les naissances de nos enfants, c'est-à-dire face à quelque chose qui nous dépassait, un grand mystère, avec une paix et une joie profonde malgré la souffrance qui vous
malgré
torture. En fait, c'est les deux choses qui sont en même temps, mais une vraie sérénité.
Être croyant est utile à ce moment-là.
Être croyant, ça n'empêche pas la souffrance, on n'en est pas exempt du tout. Ce qui est sûr, c'est que ça vous donne l'espérance. Et pour aujourd'hui, pour mes enfants comme pour moi, ça nous donne l'espérance des retrouvailles. De se dire qu'un jour, on va se jeter dans les bras l'un et l'autre et reprendre cette danse qui s'est arrêtée trop tôt.
Votre vision donc de l'après, c'est que vous vous retrouverez.
On se retrouvera, ouais. C'est une certitude.
Pas de doute.
Non, il n'y a aucun doute pour moi là-dessus. Et c'est ma joie, c'est celle aussi de mes enfants. Et c'est aussi une invitation à vivre de manière riche la vie qui m'est donnée de vivre et de manière aussi un peu fidèle à Léonard. Mais je veux dire fidèle à ce que nous avons été, à ce que nous avons voulu être, à ce que je voudrais continuer à être. Pour moi, en tant que femme et en tant que mère de mes enfants aussi.
Alors Axel, moi j'ai raconté ici déjà beaucoup d'histoires de maladies et déjà des histoires de femmes accompagnant leur mari jusqu'au bout, leur enfant jusqu'au bout. Vous êtes la première à ne pas vous être jetée sur Internet dans la seconde qui suit le diagnostic. Pourquoi ?
Je sais pas, un petit grain de folie peut-être déjà, et passer le choc, la sidération de l'annonce, peut-être est-ce qu'il y a eu une forme de déni, et sûrement une manière de nous préserver. Le médecin nous avait dit que dans 10% des cas, la maladie cessait d'évoluer. Donc
on
s'accrochait à ça. Et puis on avait aussi en tête l'idée de vivre le présent. Voilà, de ne pas anticiper sur le futur et peut-être que la maladie n'allait pas évoluer. On n'allait peut-être pas tomber dans la chose la plus dramatique. Donc on allait attendre et on allait vivre le présent.
Vous dites dans votre livre que sans doute votre entourage y est allé. Sur
oui.
Internet.
Ah bah ça c'est sûr.
Ouais. Eux ils savaient.
Oui, eux savaient et puis au fil et à mesure du temps, il y a eu quelques petites gaffes quand même.
Ils ont laissé passer des trucs.
Voilà. Et donc là le voile s'est levé peu à peu et donc on a eu quelques indices jusqu'à ce que la maladie évoluant, de toute manière, on n'a plus eu le choix que d'être confronté à la réalité.
Léo découvre vraiment le diagnostic prédictif de 3 ans. En lisant le cerveau pour les nuls.
Je crois, oui.
C'est fou, ouais. Parce que c'est à Noël. Le diagnostic a lieu 1er juillet.
Ouais, 6 mois plus tard.
6 mois plus tard.
Il y a eu ce livre, il y a eu un film, il y a eu, je vous dis, quelques petites
Il y a eu un documentaire
gaffes,
aussi. Ouais.
Voilà. Ouais.
C'est fou. Ça vous rend très singulier dans le paysage humain contemporain. 99,9% des gens se ruent sur Internet pour savoir ce qui va se passer.
Peut-être. Enfin, ce qui est sûr, c'est que ça m'a, moi en tout cas, complètement préservée. Et vraiment, je pense, Léonard aussi, dans un premier temps.
Les médecins ne vous disent pas non plus quelle est l'issue.
Les médecins, ils sont très fins parce qu'ils répondent à vos questions. Et tant qu'on ne pose pas la question, ils ne devancent pas.
Et vous n'avez pas posé la question.
Et on n'a pas posé la question.
Ce qui vous rend singulier aussi.
Mais parce que on n'y croyait peut-être pas. Vous voyez, c'est un peu un mélange de déni et puis de volonté de vivre, d'être préservé, de vivre le présent.
Mais donc, dans les jours qui suivent le diagnostic, vous n'êtes pas du tout dans quelque chose de grave, en vérité.
Non, pas du tout.
Vous êtes un peu badin.
Mmh. Oh bah, il boite, c'est tout.
Voilà.
Voilà.
Il boite, c'est tout. Mmh. Vous auriez préféré ne jamais savoir? Ou à un moment donné,
non, je
il
trouve
faut
que
s'organiser.
C'était bien comme ça a été. On va pas refaire l'histoire, mais je pense que qu'on a été préservé et qu'on a su quand même la gravité en temps et en heure pour anticiper comme il fallait le faire. Voilà.
Il y a autre chose qui rend votre récit et votre livre très singulier par rapport à d'autres livres similaires, c'est que vous n'y parlez quasiment pas des médecins. Or, souvent, les gens qui ont eu à affronter la maladie ont des choses à dire sur les médecins. Des comptes à régler, d'ailleurs, en règle générale. Dans votre livre, les médecins n'existent quasiment pas. L'hôpital n'existe quasiment pas. On a l'impression que ces 3 années et demie se sont passées à la maison et, hormis la dernière hospitalisation, jusqu'à l'issue fatale, que vous n'avez jamais vu un seul médecin.
Alors, c'est un peu une impression parce qu'on avait quand même un rendez-vous médical tous les mois. Donc c'était une parenthèse, c'était assez éprouvant parce que il fallait organiser la journée, la garde des enfants qui était quand même pas bien grand. Et puis donc il y a eu ces 3 dernières deux semaines et demie d'hospitalisation à la fin. Et moi je rends un très très grand hommage au personnel médical
de la Pitié-Salpêtrière.
De la Pitié-Salpêtrière, j'ai été très très touchés par leurs compétences techniques, scientifiques, mais aussi par leur profonde humanité. Je pense notamment aux médecins pneumologues de Léonard à la Pitié, qui est venu nous voir 3-4 jours avant la mort de Léonard, c'est-à-dire avant que Léonard ne rentre dans son agonie, il était pleinement conscient. Et il nous a fait comprendre que tout avait été fait et qu'il fallait que l'on accepte l'inéluctable. Et qu'il fallait que nous consentions enfin à cette mort. Et vraiment, je rends grâce à ce médecin d'avoir pu nous dire ça, et que tout a été fait sans acharnement ni euthanasie. Et donc que nous ayons pu vivre cette agonie, d'avoir donc 3 jours pour nous dire, pour que moi je puisse dire ces mots importants et que Léonard puisse les entendre. Merci, je t'aime, pardon, s'il te plaît, quand tu seras là-haut, est-ce que tu peux intercéder pour telle et telle raison? que nous ayons pu nous redemander en mariage aussi.
Vous vous êtes redemandé en mariage. Je n'ai pas gardé cette scène parce que, voilà, j'ai trouvé d'abord que c'était très intime, et puis j'étais pas sûr de l'avoir compris. En fait, vous vous êtes remarié quelques heures avant sa mort. Enfin, quelques jours avant sa mort.
Ouais, c'est ça. On essayait de se demander en mariage pratiquement tous les jours. Et il y a gravé en moi cette dernière demande en mariage, donc 3 jours avant la mort de Léonard, juste avant qu'il ne rentre dans son agonie.
Est-ce que la question de l'euthanasie s'est posée à un moment ?
Non, la question s'est pas du tout posée, parce que les choses ont été extrêmement claires, que nous ne voulions ni acharnement ni euthanasie. Et j'ai été donc vraiment très émue et touchée devant la compétence du personnel médical qui nous a laissé... qui a tout fait pour Léonard, pour sauver Léonard. Et il y a eu un moment où il n'y avait plus rien à faire. C'est-à-dire que la trachéotomie n'était pas envisageable dans notre cas.
C'est-à-dire introduire un tuyau qui, au fond, aurait forcé la respiration.
Voilà, c'est-à-dire que Léonard aurait été relié à une machine jour et nuit avec du personnel médical à ses côtés. Et dans le même temps qu'il n'y ait... que les choses restent naturelles et ne soient pas hâtées. En fait, l'infirmière n'a pas débranché un respirateur, mais simplement les lunettes d'oxygène.
Oui, elle les lui a retirées.
Elle les lui a retirées à un moment, en fait, au bout de 3 jours, alors que l'agonie commençait à devenir quand même, enfin, était très, très longue et douloureuse. Tout en étant un temps béni, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, temps béni où je pouvais dire parler à Léonard et lui dire tout ça et le caresser, et je suis persuadée qu'il m'entendait. Et bah, il y a eu un moment, il fallait accepter ce dernier souffle de Léonard, et avec cette perspective qu'un jour nous nous retrouverons.
Quelle différence est-ce que vous faites entre la sédation, puisqu'il accepte donc 3 jours avant de mourir d'être sédaté, et l'euthanasie ?
Eh bien, la sédation n'a pas pour but de tuer. Elle a pour but de soulager. Voilà, de favoriser l'endormissement, mais absolument pas la mort. En fait, ça faisait 2 semaines que Léonard n'arrivait plus à dormir, à s'endormir, parce que il n'était pas dans la bonne position. Il glissait, en fait. Donc, avec ses 35-40 kilos, c'était difficile. Les problèmes de respiration, les problèmes de déglutition. Donc 2 semaines sans dormir au niveau de fatigue qui était le sien, c'était difficile. Et les médecins jusqu'alors avaient dit non, on peut rien vous donner parce que si on vous donne quelque chose, ça risque de hâter la mort. Ce n'est qu'au moment où les médecins ont dit bon bah là, y a plus rien à faire, on accepte de vous donner un sédatif qui a pour but de vous aider à dormir et certainement pas de vous tuer.
Juste une petite question pour nourrir une curiosité, mais finalement c'était un placebo, le stimulateur diaphragmique, ou pas ?
Non, c'était pas un placebo.
Il a été utile dans cette recherche ?
C'est une bonne question, je pense.
Ils vous l'ont pas
j'espère.
Dit.
Non, ils ne l'ont pas dit, ouais. Bon, j'espère, parce que c'était quand même douloureux à installer, que tous les jours il fallait quand même brancher cette machine. Et voilà, il en ressentait quand même un peu les courants électriques.
Alors Léo affronte ses 3 ans et demi sans se plaindre ou si peu, voire avec humour. Je me demandais si c'était son trait de caractère fondamental depuis que vous le connaissiez, de ne jamais se plaindre.
Oui, oui, très certainement. C'est quelqu'un qui avait un énorme humour, mais très fin, et puis qui était très serein. Donc, il prenait toujours les choses et les gens comme ils venaient, donc ne s'énervait pas, ne se plaignait pas. C'est quelqu'un qui voyait toujours le verre à moitié plein, et donc moi j'ai essayé d'être un peu à son école et de mettre mes pas dans les siens. C'était pas toujours facile, parce que moi je suis plutôt un peu à râler de temps
oui,
en temps,
racontez,
en
oui.
tout cas. et Léonard... Léonard m'invite vraiment à la patience et à la douceur. Et puis moi, de mon côté, avec mon tempérament un peu battant, je l'invite parfois quand il faut être plus dans l'action et dans l'expression de...
Des fois, il vous énerve par cette...
Ah oui, bien sûr.
Voilà. Vous le racontez très bien, ça. Parfois, cette manière de voir tout le temps le verre à moitié plein est pénible.
Alors ça, je ne suis pas sûre que ça soit pénible. Ce qui est pénible, c'est qu'il s'énerve jamais.
Alors qu'il y a motif parfois.
Alors qu'il y a motif, en tout cas qu'il exprime pas, et qu'au fond de lui, non, il a vraiment pas l'air d'être énervé. Mais qu'il voit le verre à moitié plein, non, ça c'est vraiment une grande chance. Et moi, j'essaie de faire comme lui.
De vous inspirer de lui. Ouais, voilà. À votre avis, c'est, vous dites que donc c'était inné chez lui, cette chose-là, ça, ouais. ça vient sans doute de son éducation. Est-ce que sa foi fait partie aussi de ça?
Oh, ça, je dirais que c'est avant tout un trait de caractère. Je suis pas sûre que ça soit lié à sa foi.
On peut être croyant et très énervé.
Oui, oui, tout à fait. Et puis, on peut être croyant et drôle ou pas. Donc, Léonard, c'était quelqu'un de très à l'aise, rarement sujet au stress, donc très drôle. Et on peut revenir peut-être sur le titre de ce livre.
Ouais. Donc, le titre de ce livre, c'est « Si je ne peux plus marcher, je courrai ».
Voilà. Alors, au départ, c'était une blague. Ouais. Donc, comme il aimait bien blaguer, bon, bah, les enfants qui râlaient pour marcher, il leur disait « si tu peux plus marcher, tu cours ouais. ». Et là, quand moi, un jour, après une chute, donc il a fait plusieurs chutes qui à chaque fois nous valaient d'aller aux urgences parce qu'il s'était ouvert la tête. Donc le lendemain de ça, je lui dis « mais Léonard, si tu ne peux plus marcher, qu'est-ce qu'on va faire ?» Et il me répond bah, « si je ne peux plus marcher, je courrai ». Et moi, j'entends vraiment cette phrase comme une invitation à courir le risque du bonheur. Mmh. Vous voyez pas à courir pour fuir la mort qui est en train de se profiler, c'est pas ça. Il me dit, mais moi je veux courir pour chanter la vie, je veux vivre et saisir les mille et une joies du quotidien, saisir ces instants où les enfants rigolent, où il y a une belle lumière, saisir tous ces trésors et faire en sorte que le verre soit à moitié plein.
Son refus de parler de la mort, à la fin, est quelque chose d'assez étonnant pour un chrétien. S'il y a vraiment des gens qui sont outillés pour parler de la mort, ce sont les chrétiens, ou les voyants, ou ceux qui croient à l'au-delà, enfin tous les gens qui pensent qu'il y a quelque chose après. Et il est assez étonnant, et vous le dites dans le livre, que ça vous a déçu, un peu. Vous auriez aimé partager ça avec lui.
J'aurais aimé partager ça, oui. Je ne sais pas si ça m'a déçu, ça m'a... Mais oui, ça a été quand même... un peu douloureux, j'aurais aimé qu'on en parle, que je sache où il en était exactement à ce moment-là. Mmh. Alors, on a parlé de la mort, mais quand la mort était très très proche, hein, à quelques jours.
Mais qu'il avait du mal à parler.
Qu'il avait du mal à parler, voilà. Mmh. Mais quelques semaines, quelques mois avant, c'était difficile. C'était quand même très très douloureux. Moi, je veux vraiment ne pas faire d'angélisme. Mmh. Il y a eu cette maladie est terrible. Il y a eu une souffrance physique chez Léonard, une souffrance psychologique pour nous deux, parce que la maladie, c'est sa maladie, mais c'est quand même quelque chose que le couple porte ensemble. Mmh. Et puis, les enfants sont quand même un peu touchés, même si les enfants, malgré tout, sont quand même très préservés, parce qu'ils sont à fond dans l'instant, à fond dans le présent, et qu'on a essayé de garder une vie joyeuse, mais malgré tout, c'est très très dur. Et il y a des jours où on en veut à la terre entière. Alors moi, j'en ai pas voulu du tout au personnel médical parce que il a été formidable. Mais c'est une maladie très dure.
Vous lui avez demandé aussi des lettres. Vous dites qu'il l'a fait très peu. Ça veut dire qu'il a laissé un petit mot, mais pas plus.
Il a laissé un petit mot à notre fille aînée qui était en camp scout.
Ouais.
Et pas tellement plus, oui.
Ouais.
Je recherche encore maintenant des traces écrites de lui et je recherche
même...
À
chaque fois que vous ouvrez un livre, vous vous dites « je vais trouver quelque chose
ouais. ». Bah oui, mais malheureusement, j'ai pas retrouvé.
Il a peut-être pas voulu.
Peut-être que c'était une manière de se préserver et de rester dans le présent. Parce que Léonard, avec sa nature hyper optimiste, se disait vraiment « bah peut-être que je vais faire partie des 10% pour lesquels la maladie s'arrête d'évoluer ». Mais il le pense, et moi aussi
il
d'ailleurs.
Il l'a pensé jusqu'au bout.
Il l'a pensé exactement, jusqu'à ce qu'il rentre dans son agonie.
Jusqu'à ce que ce soit très invalidant, en fait.
Bah, jusqu'à ce qu'on ait cette discussion avec le médecin 4 jours avant sa mort. Il espérait encore s'en sortir. Il me disait « qu'a dit le médecin ?»
J'étais ravi, Axel Hubert, de partager cette histoire avec vous.
Moi aussi, merci Christophe.
Votre livre est... merveilleux, voilà, je le dis. Si vous voulez le lire, vous le trouverez sans doute sur Internet où le livre ne meurt plus, notamment sur Amazon où nous achetons nous-mêmes beaucoup de ces livres anciens. Si je ne peux plus marcher, je courrai aux éditions MAM. Merci
voilà.
Axel.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.